C'est un plaisir et un honneur pour moi que d'ouvrir donc cette manifestation. Alors effectivement, puisque le thème c'est l'altérité, on va prendre ici la différence de Poucet. Alors il est petit, mais il n'est pas que petit, comme nous allons le voir. Quand on pense à cette histoire, le petit Poucet de Charles Perrault, et j'insiste, nous allons parler du petit Poucet de Charles Perrault, pas d'un conte imaginaire, le petit Poucet, et je parle ici de l'histoire qui a été publiée en 1697. On pense en général à l'histoire d'un enfant qui est raillé pour sa différence, un peu brimé, pas opprimé comme Cendrillon, mais brimé, et qui, par sa ruse, parvient à ramener le bonheur familial. Si j'essayais de résumer, c'est un peu l'idée en général qu'on en a. Alors nous allons examiner cette espèce de thèse sur cette histoire en deux temps. Dans un premier temps, en se demandant si, en effet, la ruse est-elle l'atout principal de Poucet. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, en nous demandant si le bonheur familial restauré est-il le fin mot de l'histoire. Voilà le programme que je vous propose. Donc, par rapport à la question de la ruse, alors c'est vrai qu'il y a toute une série d'astuces et de ruses, faisons un petit peu la distinction, les astuces, disons, relevant plutôt du fait de trouver des solutions adéquates à des problèmes particuliers, et la ruse, plus d'anticiper un petit peu le jeu, le comportement des autres. Bon. Évidemment, cette série d'astuces et de ruses font partie des éléments de sa réussite. Reprenons-les un petit peu dans l'ordre. Bon. Alors, nous avons d'abord les cailloux blancs. Nous avons ensuite les miettes de pain, pour bien nous remémorer l'histoire. Nous avons ensuite, c'est un petit peu moins évident, le repérage du refuge, ou d'un refuge, puisqu'il ne le sait pas par avance, l'idée de monter sur un arbre, comme vous vous en souvenez. Puis ensuite, il y a l'astuce et la ruse de l'interversion des coiffes, des couvre-chefs, entre les couronnes des filles de l'ogre et les bonnets que les petits-enfants ont. Et enfin, je vous rappelle qu'il y a deux fins alternatives qui sont proposées dans le conte, une étant privilégiée par le narrateur à la première, et dans les deux fins, il y a de l'astuce et de la ruse, même, disons-le carrément, dans la première fin, c'est même de la duperie, puisque ça inclut du mensonge, qui n'est pas forcément tout à fait moral, et dans le deuxième cas, en tout cas au moins de l'astuce, puisqu'il y a l'usage des bottes pour en fait devenir une sorte de courrier express, bon, et vivre très très correctement de cela. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'ensemble de la série d'astuces et de ruses qui sont déployées dans le conte, et ce qui est intéressant, c'est quand on les... Le texte indique très bien que, en fait, ça n'est pas un personnage... comme on pourrait s'y attendre, qui soit, j'ai envie de dire, unidimensionnel, qui, dès qu'il affronte un problème, déploie son astuce ou sa ruse sans difficulté. Non, en vérité, c'est un personnage nuancé, il n'a pas la solution à tout, comme nous allons le voir, il n'est pas infaillible, et j'ai envie de dire, parfois le réel lui résiste. Alors, prenons le texte pour vérifier cela. Alors, initialement, lorsqu'il apprend le projet d'abandon de ses parents, vous vous souvenez, il surprend une conversation, il va se cacher dessous et sait ce qu'il va se tramer, on nous dit qu'il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Ah oui, d'ores et déjà, ça lui prend toute la nuit pour trouver une solution. Ce n'est pas juste immédiat comme cela. Ce n'est pas un personnage qui, devant chaque difficulté, sort une solution de sa poche. Ça serait trop simple. Il ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire, et c'est au terme d'une nuit sans doute très agitée, et qu'on peut imaginer très angoissante, qu'il finit par dire « Ah, peut-être qu'il y a un moyen. » Bon, ça c'est pour la première ruse. Et puis, lors du deuxième abandon, lors de l'affaire des miettes de pain, Les choses ne se font pas non plus si simplement, puisque là, pour le coup, et comme vous voyez, Pousset, c'est l'inverse présumant de ses capacités, le texte nous dit, Pousset fit son compte de se sortir d'affaire comme il avait déjà fait lors du premier abandon. Il dit, je vais refaire la même chose et tout ira très bien. Mais il trouva la porte de la maison fermée. Ah, il ne savait que faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est il ne savait que faire. Et voilà, c'est pas. Non, la solution, elle n'arrive pas tout de suite. Il est coincé. Lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux. Oui, dans un premier temps, il est bloqué. Ça n'est que dans un second temps, quand tout d'un coup, il sait saisir une opportunité qui se présente. Mais ce n'est pas une solution immédiate, j'ai envie de dire magique. Sauf que là encore, il va présumer de cette solution-là. Donc finalement, il va se servir de ce pain, et le texte nous dit « Il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain. » Aisément son chemin. C'est-à-dire, oui, une difficulté, ah, finalement le pain, ah bon, c'est maintenant le premier est réglé. Sauf que, comme vous le savez, il n'est pas réglé du tout avec le pain. Donc, et à nouveau, l'auteur, en nous disant « il croyait retrouver aisément », en quelque sorte, nous montre un côté très très humain du personnage, qui, l'astuce et la ruse, elle est réelle, mais somme toute, eh ben, parfois peut se tromper, ne pas trouver, parfois au contraire trouver quelque chose et présumer que ça va être très facile. Donc, il croyait retrouver aisément son chemin, mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Il est surpris. Voilà, il est comme nous tous. Hein, il essaye de faire marcher ses idées, mais parfois ça marche plus ou moins bien. Alors là, ça ne marche pas du tout. Bon, alors cette fois-ci, ils sont définitivement égarés dans la forêt. Il a à nouveau une idée, celle de grimper en haut de l'arbre pour chercher un refuge. Mais là encore, les choses ne sont pas si simples. Le texte nous dit, donc effectivement, quand il est en haut de l'arbre, il voit une lumière au bout, donc ça marche. Mais il descendit de l'arbre, et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien, cela le désola. Et oui, pour cause. Mais vous voyez, c'est le fait que ça le désole. C'est-à-dire que, ben non, il espérait encore que maintenant qu'il a eu la direction à terre, il percevrait quelque chose, ben non. Donc c'est... Sa solution n'est pas si simple à mettre en œuvre. Et la suite nous le dit, puisqu'ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, celle qu'il avait perçue quand il était perché sur l'arbre, non sans bien des frayeurs, car souvent il la perdait de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'il descendait dans quelques fonds, quelques trous. Évidemment, et là c'est un pluriel, qui inclut l'ensemble des frères, y compris Pousset. Donc vous voyez, il se dit, ah ben finalement, lui-même, ça marche un petit peu moins bien. Globalement, ça marche, cette solution-là, même si, bien entendu, là, pour le coup, il n'avait pas anticipé de Carrie Bansilla qui se retrouve dans un refuge qui est tout de même un peu inquiétant. Mais la technique elle-même de percevoir au loin, ben, ça marche avec ses difficultés. Donc vous voyez, on voit qu'il y a bien de l'astuce, de la ruse qui est déployée, mais les choses ne se passent pas forcément de façon si simple. En vérité, la grande réussite du petit Pousset dans l'ensemble de l'histoire, c'est bien entendu, on va dire, ses capacités cognitives, mais si on parlait avec un vocabulaire plus moderne, on parlerait aussi de ses capacités émotionnelles. Voilà. Et c'est de ça que je veux parler maintenant. Que ça soit vis-à-vis de sa propre maîtrise de ses émotions, que ça soit à l'égard des autres, de sa faculté à comprendre les émotions des autres, celles de ses frères, et puis on verra dans un troisième temps, celles de ses parents. Alors, déjà, reprenons le portrait qui était proposé de lui au tout début de l'histoire. Il était fort délicat et ne disait mot, prenant pour bêtise ce qui était une marque de la montée de son esprit. C'était les autres hein, qui prenaient pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Bonté, ici, dans le français du XVIIe, veut dire la perfection de son esprit. Ça n'est pas dans un sens éthique. Il était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Donc vous voyez, dès le début, en vérité, il est pris pour un idiot, mais il est le plus fin, et cette capacité à écouter et à percevoir les émotions des autres va être, c'est ce que nous allons voir, sa force principale. Alors d'abord, quelque chose qui est tout de même tout à fait remarquable, surtout quand on le compare à d'autres textes du recueil de Charles Perrault, c'est que, imaginez, lorsqu'il a découvert le soir le projet parental, on pourrait imaginer qu'il y aurait de quoi s'effondrer, s'inquiéter, réveiller illico tous ses frères, se mettre immédiatement à geindre, à pleurer. Il ne le fait pas. Pourtant, ce sont des comportements qu'on trouve dans certains autres contes. Vous avez, par exemple, dans Les Souhaits ridicules, conte en vers. Blaise, le bûcheron, lui, se lamente de son sort. Bon. Vous avez également, dans Le Chaboté, le troisième fils qui reçoit un héritage plutôt maigre. Bah, il se lamente, il n'agit pas, il se lamente. Vous voyez, ici, il poussait, il ne se lamente pas. Il passe la nuit à cogiter. Ce qui est tout de même une certaine capacité de se maîtriser hein, par rapport à la situation. Et, il va sans dire que c'est le plus jeune des trois que je viens de vous mentionner, des trois personnages. Donc, déjà, il y a cette évidence. Et comme en plus, ce texte, Le Petit Poucet, est le dernier du recueil, par principe, nous avons déjà l'exemple de personnages qui, face à la difficulté, ont plutôt tendance à s'effondrer. Bon. Donc, il vient en contraste de cela. Ensuite, cette capacité à contrôler ses propres émotions, on va la retrouver également dans le fait que, contrairement à ce qu'on peut imaginer de personnages de contes, où on imaginerait qu'ils soient intrépides, qu'ils soient relativement insensibles, ce qui leur donnerait une force taillant droit leur chemin. Alors on a vu que le réel parfois pouvait résister, mais en vérité c'est un petit garçon, somme toute, qui a peur. Et nous le voyons à plusieurs reprises, cela. Lorsqu'il se retrouve, cette fois-ci véritablement égaré, lors du deuxième abandon, bon, une fois que les miettes, ça ne fonctionne pas. Les voilà donc bien affligés. Alors là, c'est un pluriel qu'il inclut avec les autres. Il est affligé comme ses frères. Vous voyez ? Car plus il marchait, nous sommes au pluriel, hein, plus il s'égarait et s'enfonçait dans la forêt. La nuit vint, et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Alors nous, à nouveau, on n'avait aucun doute que tous les autres frères avaient peur, mais poussaient à peur comme les autres. Ça serait trop simple s'il était juste une sorte de figurant qui défile dans son histoire sans ressentir d'émotion. Bon. Nous avons également, lorsqu'ils arrivent à la maison de l'ogre, ils heurtent à la porte et c'est l'épouse qui vient ouvrir. Alors là, il faut prendre la parole. Bon, évidemment, aucun de ses frères ne prend la parole, c'est lui encore qui s'y colle. Mais ce que nous dit le texte, et la chose suivante, c'est... Alors, elle ouvre en disant « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre ?» Bon. Et il répond « Hélas, madame, lui répondit le petit Poucet, qui tremblait de toute sa force, aussi bien que ses frères. » Que ferons-nous, etc. Et ensuite, ce qui est très, très intéressant, je vois la suite, parce qu'il va faire preuve d'une grande capacité d'argumentation. Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier. Alors en plus, vous voyez, l'habileté, puisque bien entendu, il ment, en faisant en faisant passer le représentant, oui, ça nous est égal, mais non, ça ne nous est pas tout à fait égal non plus. Bon, mais alors que dans l'instant d'avant, on vient de vous dire qu'il tremblait aussi bien que ses frères. L'auteur le souligne pour dire, non, il ressent les mêmes émotions. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'émotions, c'est qu'il les contrôle, ce qui est tout à fait différent. Nous avons encore d'autres preuves de cela, qui, j'ai envie de dire, un petit peu comme les cailloux ou les miettes, nous sont semés dans le texte. Là, c'est maintenant, puisque nous sommes dans la chambre que les garçons partagent avec les fillettes, et la virée nocturne de l'ogre pour les égorger. Donc l'ogre s'approche d'Élie, hein, vous savez, il y a la confusion qui est faite. Bon. Et donc là, c'est l'ogre. Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous, excepté le petit Pousset, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête. Alors les autres, là, pour le coup, ils n'ont pas peur, ils sont endormis. Donc là, il est le seul à ressentir cette peur-là. Mais chaque fois, ça nous est signifié à nouveau qu'il est après tout qu'un petit garçon comme un autre. Et c'est très intéressant parce que lors de la dernière allusion qui va être faite sur cette émotion-là, la peur, et notamment par rapport à ses frères, là va s'installer une différence. C'est, ils vont s'échapper, vous vous souvenez qu'ensuite l'ogre les poursuit grâce à ses bottes de 7 lieues, puis ensuite sous un rocher, finalement, l'ogre s'endort et eux, ça va leur permettre de s'échapper. Donc, nous en sommes à ce passage-là. L'ogre s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Bon. Le petit Pousset en eut moins de peur. Et dit à ses frères de s'enfuir, etc. En eut moins de peur. Mais vous comprenez bien qu'en eut moins de peur, ça veut dire qu'il a peur tout de même. Ça veut dire qu'il n'a pas peur. C'est-à-dire que, vous voyez, l'évolution dans le texte, au début, c'était un pluriel collectif. Et puis, ensuite, on vous indique qu'il a aussi peur que les autres. Et là, maintenant, on dit qu'il a tout de même moins peur que les autres, mais qu'il a peur tout de même. Donc peu à peu, effectivement, ce qu'on voit ici, c'est qu'au-delà, on a commencé avec la ruse et l'astuce auxquelles on pense, mais il y a une très grande capacité de sa part à gérer ses propres émotions. Alors ça, c'est vis-à-vis de lui-même. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que la vie étant compliquée pour lui, il doit aussi gérer les émotions des autres. Alors, on va commencer par le cas de ses frères. Vous vous souvenez que, tout à l'heure, j'ai évoqué que lors du premier projet d'abandon des parents, il a cogité toute la nuit pour trouver une solution et qu'il n'a ameuté personne. Il n'a pas réveillé ses frères. Bon. Tout de même, tout à fait remarquable, ça aurait pu être une solution évidente. Et le texte nous le dit absolument clairement. Puisque je vais reprendre ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure, il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. C'est à ce moment-là qu'il va emplir ses poches de petits cailloux blancs. Et puis le texte poursuit. On partit, et le petit Pousset ne découvrait rien de ce qu'il savait à ses frères. Donc il fait comme si de rien n'était. Il va avec ses frères, poches remplies de cailloux, et ses parents. Lui, sachant ce que les parents ont en tête, il ne moufte pas. Ah oui, c'est le moment où on peut s'interroger. Pourquoi ? Parce qu'il connaît ses frères. Et j'aimerais dire, il sait le débordement d'émotions que ça serait, ou alors éventuellement le déni complet. Mais enfin, que ce que tu racontes, c'est pas possible. Je vous rappelle ce qu'on a eu tout à l'heure, c'est qu'a priori, on ne l'écoute pas. On le raille, on se moque de lui. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas possible. Mais si, j'ai entendu, tu divagues, comment tu peux accuser nos parents comme ça ? Donc, oui, il juge, non. Ça sert à rien. C'est vain. Il vaut mieux laisser les choses advenir et moi, de mon côté, essayer de trouver une solution à cela. Donc ça, c'est d'emblée qu'il a fait ce choix de ne pas, comme dit le texte, découvrir la chose à ses frères. Et de fait, quand un peu plus tard, il se retrouve seul dans la forêt, puisque les parents se sont échappés par derrière, à ce moment-là, nous avons une notation tout à fait étonnante dans le texte. Les enfants se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit Poucet les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait, puisque lui, il sait qu'il a une solution. Et ça n'est qu'après que nous avons « Il leur dit donc, ne craignez moi, ne craignez point mes frères, etc. » Il les laisse crier. On pourrait dire « Attendez, pas besoin, ne pleurez pas, ne criez pas, vous inquiétez pas, j'ai la solution. » Non, 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 non. Il les laisse crier et pleurer. Parce qu'il a bien compris, là encore, qu'ils ne l'écouteront pas. Il faut les laisser un peu se calmer d'abord, naturellement. Et quand ça sera un petit peu, le coup d'émotion sera un petit peu passé, à ce moment-là, il pourra leur suggérer une solution. Donc il fait tout à fait attention à la façon dont il... Alors qu'on pourrait... On pourrait légitimement se dire qu'au contraire, il pourrait y avoir une sorte de joie et de vanité à pouvoir leur dire « Non, mais attendez, j'ai la solution, vous inquiétez pas. » Mais non, ce n'est pas le bon moment. Il y a un bon moment pour tout et ce n'est pas le bon moment pour en parler de cette solution. Il faut attendre. Et ça, c'est ce que nous disait le texte depuis le début. Hein, nous disait, il parlait peu, mais il écoutait beaucoup. Ça fait partie profondément de ses qualités essentielles. Alors, là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est que dans la suite, quand il va effectivement leur livrer cette solution, il va la formuler de manière suivante. « Ne craignez point mes frères, donc c'est ce que je venais de vous dire, mon père et ma mère nous ont laissés ici. Mais je vous remènerai bien au logis, suivez-moi seulement. » C'est même étonnant cette formulation, « nous ont laissé ici ». Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on va voir... il s'agit d'abandon. Bon. Quand on va voir les termes qui sont utilisés dans le texte, par exemple, chez Hansel et Gretel, on en reparlera, puisque l'histoire est assez similaire, c'est le terme « abandonné » qui est utilisé. Bon. Le terme n'est jamais utilisé dans le conte de Perrault. Lors de la première occurrence de ce projet, lorsque les deux parents en discutent et que Poucet surprend la conversation, c'est le verbe « se défaire », alors qui pour nous est archaïque, qui est utilisé. Le texte dit « ils résolurent de se défaire de leurs enfants ». De se défaire de leurs enfants. « Défaire » avait un peu le sens, si vous voulez, comme de renvoyer des employés. On se défaisait des domestiques. Donc voilà, c'est ce sens-là. Donc c'est un petit peu moins dur que abandonner, mais il y a tout de même une séparation forte. Donc, le narrateur dit bien que les parents évoquent un projet de se défaire de leurs enfants. Ça, c'est le narrateur. Mais quand on est en voie directe, les parents utilisent encore une autre formulation. Ils vont utiliser à tour de rôle aussi bien le père que la mère. Le père parle en disant... « Je suis résolu de les mener perdre demain au bois. » C'est dur tout de même, de les mener perdre demain au bois. Et c'est le même verbe que va utiliser la mère, la bûcheronne. Et lui, quand il formule, « Ils nous ont laissés là. » Donc vous voyez, il atténue les choses. En vérité, qu'est-ce qu'il fait pour ses frères? Il atténue les choses parce que « laisser là... » À la rigueur, ça laisse très très large d'interprétation. Est-ce que c'est un abandon? Est-ce qu'ils nous ont oubliés? Est-ce que se sont perdus? Est-ce que... Voilà. Je ne rentre pas là-dedans. Il n'accentue pas le côté dramatique de la situation. Voilà. Il évoque quelque chose qui n'est pas foncièrement faux, mais il n'accentue pas. Il va dire, ils nous ont abandonnés. Au contraire, il va redéclencher les pleurs immédiat, alors qu'ils venaient d'attendre que les pleurs cessent pour enfin leur proposer une solution. Vous voyez, cette habileté-là, qui n'est pas qu'argumentative, qui est une habileté émotionnelle, en vérité. Voilà. Alors ça, c'était ses sentiments par rapport à ses frères. Maintenant, voyons un petit peu l'attitude par rapport à ses parents. Alors, parlons d'abord un petit peu des parents eux-mêmes, qui sont tout de même assez particuliers. Bon, ils sont pas foncièrement méchants. Bon. Dans le conte de Perrault, ils sont plutôt aimants. Là encore, la comparaison avec Hansel et Gretel est, je pense, tout à fait bénéfique, puisque la formulation qui est donnée, puisque dans les deux cas, vous avez une discussion pour que les deux parents se mettent d'accord, ce n'est pas immédiat, alors qui est inversé, puisque c'est le père chez Perrault qui est à l'initiative du projet, tandis que c'est la mère chez les Grimm, bon, qui doit à chaque fois convaincre son conjoint. Bon, mais l'idée est la même, sauf que les arguments qui sont utilisés ne sont pas du tout les mêmes. Dans Hansel et Gretel, la mère va dire au père, voilà ce que nous allons faire demain, nous irons travailler en les laissant et les abandonnant, ils ne trouveront plus le chemin de la maison et nous en serons débarrassés. Et là, comme le père résiste un peu, elle va ajouter, en l'insultant, en le prenant de haut en plus, et quoi ? Nous devrions tous les... Il y a deux enfants seulement, hein. Il n'y en a pas sept, il n'y en a que deux. Nous devrions tous les quatre mourir de faim ? Tu n'aurais plus qu'à nous façonner des cercueils. Donc, en fait, elle a une visée tout à fait utilitariste. Hein. C'est soyons pragmatiques, soit on meurt à quatre, soit il n'y en a que deux qui meurent, et nous, deux, on peut survivre. Quitte d'ailleurs à avoir d'autres enfants ultérieurement. Bon, c'est pas dit, je rajoute. Donc, voilà, c'est de, pour le coup, du pur égoïsme, mais pas simplement de l'égoïsme. Vous avez vu même dans le ton qui est donné, c'est à dessein, non seulement en insultant le père, en disant qu'ils en seraient débarrassés, c'est une charge, un poids. Ça, c'est ce que nous avons chez Hansel et Gretel comme argumentation. Tandis que dans Le Petit Poucet, puisque c'est le père qui prend les devants, il va utiliser comme argument qu'il ne saurait les voir mourir de faim devant ses yeux. « Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux », dit-il à son épouse. Elle va mettre un petit peu de temps à être convaincue, et finalement le texte va nous dire qu'elle-même, ayant considéré quelle douleur ce serait de les voir mourir de faim, elle finit par y consentir. Vous voyez, ce n'est pas du tout pareil. Et en vérité, là, Charles Perrault va directement saisir cet argument dans la Bible hébraïque, hein, puisque c'est, je rappelle, l'argument de Agar. C'est dans la Genèse au chapitre 21, verset 16, qui... se retrouvant chassé dans le désert avec son fils Ismaël, dans le désert du Néguev, l'abandonne au pied d'un arbre, puis s'éloigne, non pas parce que, si je reprenais du Hansel et Gretel, parce que seul je m'en sortirais mieux, au moins peut-être aurais-je la possibilité d'atteindre le prochain puits, seul, à deux, il est une charge pour moi, non, parce que elle s'éloigne, et le texte nous dit dans la Bible, pour ne pas voir la mort de l'enfant. C'est ça qui lui est insupportable. Non. C'est-à-dire, quitte à mourir, je ne peux pas. Donc, c'est effectivement, je pense très profondément, le côté, en vérité, paradoxalement aimant des parents du Petit Poucet. Alors, bien entendu, je ne suis pas du tout en train de les racheter, parce que par ailleurs, ce sont bien évidemment des... un couple assez inconséquent et irresponsable, par ailleurs. Je ne vais pas rentrer à la discussion sur le fait qu'ils ont eu autant d'enfants si vite à la fois, comme nous dit le texte, d'ailleurs avec ironie, puisque le texte le souligne. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne. Bon. Alors, au-delà de cet élément-là, il faudrait rentrer dans les considérations de contexte historique. Nous nous avons comme élément que lorsque, après le premier abandon, ils rentrent chez eux, oh, bonne surprise, précisément une dette qu'on leur devait leur est réglée. Bon. Sauf que lorsque cet argent va être consommé, parce que tout a une fin, le texte redit, lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore, et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin. Voilà, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. D'ailleurs, en vérité, quand on fait bien attention au texte, il y a même une notation plus que satirique, j'ai envie de dire même féroce à leur égard, qui est que ce passage où, à l'issue du premier abandon, ils reçoivent une somme inespérée, et le suivant. Donc ils arrivèrent chez eux. Le seigneur du village leur envoya 10 écus qu'il leur devait il y a longtemps, et dont ils n'espéraient plus rien. Bon, vous voyez bien qu'il y a aussi un élément satirique vis-à-vis de nobles, dont ils savaient bien que s'ils ne leur donnent pas naturellement l'argent, ils n'avaient aucun moyen, de, par la justice, d'imposer le remboursement. Mais ça, c'est autre chose. Bon. Cela leur redonnait la vie. Cela redonnait la vie, donc, aux deux parents. Alors là, vous pourriez vous attendre qu'ils se courent dardard dans la forêt, rechercher les enfants. Maintenant qu'ils ont les 30 écus en main et en poche. Alors, je poursuis. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes. Et c'est pas fini. Ah là, ils mangent. Maintenant. Lorsqu'ils furent rassasiés, la boucheronne dit « Hélas, où sont nos enfants ?» Ah voilà, lorsqu'ils furent... Vous voyez, après tout ça, tout d'un coup, elle se souvient « Ah, au fait, on a abandonné nos enfants, il faut qu'on fasse quelque chose. » Mais ceci dit, ils font rien. Parce que le texte continue « Hélas, où sont nos enfants ? Ils feraient bonne chère. » Et elle se lamente. Lorsqu'ils ont eu 30 écus, il était encore peut-être temps de faire une battue, je ne sais pas, pour aller retrouver les enfants. Donc voilà, c'est le côté inconséquent, irresponsable. Plus que ça, je pense que c'est pas de la méchanceté pure. Je pense que le portrait qui est dessiné ici par Charles Perrault, c'est pour ça d'ailleurs quand je disais féroce, qui est un terme qui se prête à l'animalité, c'est que sans doute qu'il leur reproche un côté presque bestial, instinctif et bestial. Pour eux, il faut manger tout de suite. Voilà. Ensuite, chaque chose en son temps, ils ne peuvent pas penser à autre chose tant que là, ils n'ont pas mangé. Donc c'est plutôt ça qui est mis, plus qu'une méchanceté profonde, qui est, j'allais dire, retenue contre eux, plus que les instincts égoïstes et vraiment méchants de la mère de Hansel et Gretel. Sauf que, pour revenir maintenant à Pousset, puisqu'on voit un petit peu mieux à qui il a affaire. Mais lui, il a tout compris. Il a compris que c'était ça. Il a compris, il avait, je vous rappelle, surpris cette conversation, ce qui est très différent de Hansel et Gretel. C'est-à-dire qu'eux aussi ont surpris la conversation. C'est-à-dire qu'en même temps, ils ont surpris les arguments. C'est-à-dire que pour Hansel et Gretel, je vous ai donné des arguments, ils ont bien vu que leur mère était atroce. Leur mère qui, je fais juste une aparté là-dessus, leur mère qui devient belle-mère au fur et à mesure des éditions des frères Grimm, c'est-à-dire dans la première édition qui date de 1812, puisque vous savez qu'il y a eu, en fait, ils ont, autant Charles Perrault a publié ses contes sur le tard, autant les frères Grimm l'ont publié sur le tôt. Donc Charles Perrault devait avoir 67 à 70 ans, donc il y a une seule édition. Les frères Grimm, ils l'ont publié en 1812, la première édition. Il y en a eu 7 jusqu'en 1857, je crois. C'est vous dire. Bon. Et il y a des retouches au fur et à mesure, des petites retouches comme ça à droite à gauche, et parmi les retouches, il y a notamment le fait que tout d'un coup, dans la première édition, c'est leur propre mère, hein, ce sont leurs parents biologiques, Bûcheron et Bûcheronne, de Hansel et Gretel, et tout d'un coup ça devient, peut-être que c'est pour que ça soit un petit peu moins difficile et un peu moins féroce, ça devient le père, mais une belle-mère qui prend les devants par là. Mais qu'importe pour nous, c'est que l'idée, alors que je reprenne... C'est à propos des arguments que les enfants entendent. Voilà, c'est ça. Donc, eux, ils ont entendu, pour Hansel et Gretel, j'allais dire, la vérité sur leur mère. Mais pour Poussin, il a aussi entendu la vérité sur les parents, que d'un côté, ils pouvaient sincèrement être, j'allais dire, déchirés de les voir mourir, mais ça n'allait pas les empêcher de passer à l'acte et de recommencer. Donc ce que je veux dire, c'est que, voilà, je crois que ça fait partie aussi de sa maturité, en quelque sorte, de faire avec ça. Et c'est ce qu'il va devoir faire, de vivre avec ça. Et c'est aussi pour ça que, là, on doit faire face à un autre épisode extrêmement étonnant dans l'histoire, qui est le retour à la maison, la première fois. Alors, non, le deuxième fois, ce n'est pas immédiat. C'est dans la continuité de ce qu'on disait. Les parents, ça y est, maintenant, sont rassasiés. Et ils se lamentent, nos enfants. Mais en parallèle, les enfants étaient sur le chemin du retour. D'accord ? Donc, on reprend les enfants sur le chemin du retour. Donc ils suivent Pousset, qui les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient les parents, et ils vont surprendre cette conversation, hein, où la mère se lamente, « Ah, nos enfants !» Je souligne ici le « ils n'osèrent d'abord entrer ». On va revenir là-dessus. Et à ce moment-là, finalement, il frappe à la porte, crie « Nous voilà, nous voilà !» Là, elle courut vite leur ouvrir la porte, la mère, et leur dit en les embrassant « C'est sincère !» C'est sincère, c'est inconséquent, mais c'est comme ça. Elle leur dit en les embrassant « Voilà, que je suis bien aise de vous revoir, mes chers enfants, etc. » Et elle leur donne à manger et partage, bien entendu, le reste du plat. Je vous rappelle, il y avait trois fois la quantité qu'il fallait pour eux deux, donc il y a de quoi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la notation suivante. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et la mère. À qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt en parlant presque toujours tous ensemble. Bon, là, on imagine une scène très vivante, très joyeuse de la famille réunie, où ils parlent de la peur qu'ils ont eue. Mais il y a tout de même quelque chose de très, très étonnant. Aucune interrogation, accusation envers les parents. Rien. Parce que la phrase d'après, ça va être « Ces bonnes gens étaient ravis de revoir les enfants » et la suite que je vous lisais, sauf que l'argent ne durera pas longtemps et à nouveau, ils se retrouvent dans les mêmes affres. Oui, ils reviennent à la maison. Ah, ils racontent leur tribulation pour venir à la maison. Et rien, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous, est-ce que vous étiez passé ? Pourquoi est-ce que... Rien. Rien du tout. Bon. D'un autre côté, on ne peut pas le mettre sur le compte. Oui, c'est un compte, c'est comme ça. Non. C'est pour ça que je vous disais, ils n'osèrent y entrer. Ils osèrent y entrer parce qu'il y avait tout de même un malaise. Quand on a été abandonné comme ça et qu'on se retrouve à la porte, est-ce qu'on est bienvenu ou pas ? Il y a un malaise. Donc le malaise, il est bien ressenti. Mais on omet. Il y a un énorme non-dit ici sur cette question. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle est traitée chez Grimm. Ben, elle est évacuée de manière très simple, puisque nous avons affaire, je vous disais, à deux personnages, les parents, dont l'un est foncièrement méchant et pervers. Donc, Il frappera à la porte. Et vous voyez, là, on n'a pas de notation de difficulté à frapper. Hein, c'est pas « ils n'osèrent pas frapper », c'est « ils frappèrent à la porte ». La femme ouvrit. Et lorsqu'elle s'aperçut que c'était Hansel et Gretel, elle leur dit « Méchants enfants, pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt? Nous avons cru que vous ne vouliez plus revenir à la maison. » Bon, vous voyez l'inversion totale. Alors, quelle que soit la vérité, évidemment, ensuite, il n'y a plus de marge de discussion. Mais non, c'est un peu le contraire. Ok. Bon, elle prend les devants pour, effectivement, mettre fin à toute suspicion de culpabilité. Mais ce n'est pas le cas chez Perrault. Chez Perrault, les frères et Poussin y compris choisit de ne pas confronter ses parents là-dessus. Et je pense que c'est un vrai choix. C'est un vrai choix qui est lié au fait qu'en quelque sorte, c'est vain. Peu à peu, ils commencent à comprendre qui ils sont. Je veux dire, avec leur bon et leur mauvais côté, et que ça peut paraître paradoxal, mais ça ne sert à rien de leur faire la morale. Ça ne changerait rien. Donc ça, c'est l'attitude de Poussin à son retour la première fois, avec cette espèce d'énorme non-dit, mais qui en quelque sorte nous en dit beaucoup sur Poussin. Et ce qui fait que le résultat de tout cela, c'est qu'il va évoluer. Il va évoluer dans son rapport avec ses frères et bien entendu avec ses parents et j'ai envie de dire son avenir de manière plus générale. Alors par exemple, une notation tout à fait remarquable sur cette évolution, c'est lors du premier abandon, je vous disais que il laisse pleurer les frères et puis finalement intervient en leur disant qu'il a la solution. Et c'est formulé de la manière suivante, je reprends, je l'avais déjà cité. Donc ne craignez point, mes frères, mon père, mes mères nous ont laissés ici, je vous le disais, mais je vous ramènerai bien au logis, suivez-moi seulement. Ils le suivirent. Suivez-moi seulement. Vous entendez dans ce seulement, suivez-moi seulement, vous entendez que la chose n'est pas naturelle. En vérité, c'est la première fois que tout d'un coup, il demande à ce que cette fois-ci, on l'écoute. Qu'on ne le prenne pas de haut. Que c'est peut-être lui qui va avoir la solution. Hey, ce n'est pas « suivez-moi », c'est « suivez-moi seulement ». Si vous acceptez l'idée même de me suivre, vous allez voir, ça va bien se passer. Alors effectivement, les choses vont évoluer, puisque à la fin de l'histoire, là, ils sont passés par l'état d'aventure chez l'ogre, et là, le texte nous dit « il leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. » C'est plus le même ton. Maintenant, on le suit. Il n'a plus à suggérer que ça serait une bonne idée de le suivre. Et donc, il évolue dans sa relation. Et les choses se poursuivent, puisque lors de l'affaire du rocher sur lequel l'ogre s'est endormi, on en parlait tout à l'heure puisque c'est là où je vous disais, vous vous souvenez que les frères avaient très peur et que lui avait un peu moins peur que les frères. Donc je reprends, c'était le passage que je vous citais. Le petit Poussin en eut moins de peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'ils ne se missent point en peine de lui. Alors c'est ça qui m'intéresse ici. Se mettre en peine de lui, c'est-à-dire s'inquiéter pour lui. Parce que pourquoi? Là, ils sont à 100 pas de la maison, nous dit le texte, de la maison de leurs parents. Donc eux, il leur dit de rentrer à la maison, et lui, il s'en va. Là, il va prendre le large. Il faut le faire. Il leur dit, et dorénavant, vous inquiétez pas pour moi, je m'en vais. Il ne leur explique pas quoi, il ne leur explique pas ses projets, il le fait. Il leur dit, juste, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez cette évolution du personnage qui, à la fois, a jugé les limites de ses frères, de ses parents, et qui, peu à peu, ben, on va dire, s'émancipe par rapport à cela. Ce qui fait qu'on a une autre notation, d'ailleurs, sur la façon dont il voit ce cocon familial. C'est le terme qui est utilisé pour désigner le logement dans le texte. Le terme va évoluer, et c'est tout à fait caractéristique quand on le regarde d'ailleurs dans ce conte et qu'on le compare à celui qui est utilisé dans les autres contes de Perrault. Au début, lorsqu'il est parti chercher les cailloux, on nous dit qu'il revint à la maison. Terme qui nous semble tout à fait normal pour désigner votre maison. Quand je dis votre maison, celle de vos parents, la vôtre, quoi. Mais ensuite, quand il va parler aux frères, il va dire « Je vous ramènerai bien au logis ». Quant aux bûcherons et à la bûcheronne, eux, de leur côté, on apprend qu'ils arrivèrent chez eux. C'est là où ensuite ils reçoivent les 30 écus dont je vous parlais. Ils arrivèrent chez eux. Et à la fin, le petit pousset, on va le voir dans les deux fins alternatives qui nous sont proposées, il revint au logis de son père. Et dans le dernier paragraphe, il revint chez son père. Bref, il a intégré que c'était pas tout à fait chez lui. Effectivement, des parents qui sont comme ça, ils commencent à mettre une distance avec ce lieu-là. Voilà. Le terme de logis qui est utilisé est tout à fait caractéristique. C'est un peu l'idée d'un... C'est le terme qu'il utilise pour un logement un peu provisoire, si vous voulez, par rapport à la maison. Donc voilà, rien que ce terme note la distance qu'il commence à faire et qui est salutaire pour lui, parce qu'à la rigueur, il vaut mieux qu'il se détache que plutôt que de répéter à la maison, à la maison, à la maison, dans laquelle on peut le jeter d'un jour ou l'autre. Bon. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que il va se rebeller, se confronter aux parents? Alors on a vu qu'ils ne s'étaient pas confrontés au premier retour, hein. Ils n'avaient pas interpellé les parents en leur disant « mais enfin, quelle honte, quelle horreur !» Alors voyons ce qui se passe à la fin de l'histoire, de ce point de vue. J'ai envie de dire le retour à la famille. Alors là encore, l'exemple de Hansel et Gretel sera tout à fait significatif en comparaison. Quand les deux enfants, donc là je suis chez les Grimm, rentrent chez eux, alors eux c'était pas un ogre, vous vous souvenez, c'est une sorcière, bon. Ils ont également un périple à faire, ils doivent passer une rivière avec une oie, une canne, et ils arrivent. Ils se mirent alors à courir, se précipitèrent à l'intérieur et sautèrent au cou de leur père. Depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt, le père n'avait plus eu de joie. Quant à sa femme, elle était morte. Alors, donc, c'est survenu durant les quelques jours, c'est assez opportun, c'est survenu durant les quelques jours. Il y a eu, juste une aparté par rapport à ça, il y a une Catherine Tauvron, qui travaille également sur les contes dans une communication. J'avais trouvé très, très intéressant le parallèle qu'elle avait fait avec la sorcière qu'ils viennent de tuer, hein, vous vous souvenez, en l'enfournant. Bon. Et il y a effectivement beaucoup d'éléments qui montrent qu'on peut tout à fait imaginer que, de ce point de vue-là, la sorcière et la belle-mère ne font qu'un. Donc en fait, quand ils ont tué la sorcière, au même moment, la mère meurt au logis de l'autre côté. Ouais, bon. C'est pas notre propos ici. Donc, quant à sa femme, elle était morte. Je vous rappelle qu'ils étaient partis. Alors, comme Pousset, ils sont partis avec des richesses de la maison de la sorcière, comme Pousset qui revient également, on va le voir, riche. Gretel secoua son tablier pour en faire tomber les perles qui se répandirent dans la cuisine, pendant que Hansel en jetait des poignées de ses poches. Tous leurs soucis avaient enfin pris fin et ils purent vivre avec bonheur ensemble. Point final. Voilà, du conte des Grimm. Alors, allons voir maintenant ce qui se passe chez Perrault. Et alors, nous avons deux, si je puis dire, pour le prix d'un, puisque nous avons deux fins. Donc, ça sera tout à fait probant. La première fin, c'est qu'il va voler les richesses de l'ogre. Et il revient. Le petit pousset était donc chargé de toutes les richesses de l'ogre. il s'en revint au logis de son père, où il fut reçu avec bien de la joie. La deuxième fin, celle qui est privilégiée par le narrateur, puisque je vais dire, ben non, la première, c'est pas ce qui s'est passé vraiment, ce qui s'est passé vraiment, c'est la chose suivante, c'est que, ce que je vous disais tout à l'heure, il devient courrier express avec les bottes, il va à la cour, il va notamment au front, puisqu'il y a des batailles qui se jouent, et là, c'est très très utile, ses capacités à aller très vite, il se fait bien payer, il est également porteur de courrier pour des dames, mais qu'importe, ça n'est pas notre sujet. En tout cas, il s'enrichit. Bon, on peut supposer, dans le contexte de l'époque, qu'il obtient une charge de poste royal. Et le texte nous dit qu'après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier et avoir ramassé beaucoup de biens, il revint chez son père où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir. Il mit toute sa famille à son aise et fit parfaitement bien sa cour en même temps. Sa cour à la cour. Alors, ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est qu'il y a deux éléments de comparaison entre les fins des Grimm et ceux de Perrault. Sur l'attitude, ce qui nous intéresse, c'est des nouvelles relations familiales. Dans le cas de Hansel et Gretel, on a vu qu'ils se mirent alors à courir, se précipitèrent à l'intérieur, sautèrent au cou de leur père. Ils manifestent, eux, de la joie. De voir leur père, il y a de la joie en retour. L'homme n'avait plus de joie. D'accord ? Vous avez peut-être noté, quand je vous ai lu dans le cas de Pousset, que la première fin, on nous dit que Pousset fut reçu avec bien de la joie. C'est pas lui qui a de la joie. On ne dit pas « où il les retrouva avec de la joie hein ». Il fut reçu avec de la joie. Je vous dis pas qu'il est peiné non plus, hein, c'est pas ça. Il est bien content, mais la joie, elle est plutôt du côté de la famille. Lui, on commence à voir qu'il a commencé à se détacher de tout cela. La deuxième fin, c'est, donc il revint chez son père, où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir. Pas la joie qu'il eut de les revoir. La joie qu'on eut de le revoir. Donc vous voyez qu'elle était réciproque chez les Grimm. Elle ne l'est pas ici. Mais bien compris, quand je dis par réciproque, ce n'est pas joie et, de manière antithétique, une peine, un chagrin. Non, c'est une joie et une distance. D'ailleurs, chez les Grimm, c'est une joie du côté des enfants avec une notation un peu puérile, le fait de courir et de sauter au cou. Notation, on pourrait penser que. C'est pas le vocabulaire de Perrault. On dit « Ah oui, ça, c'est la façon d'écrire des Grimm et pas de Perrault ». Mais non, parce qu'on a un cas chez Perrault où on a un enfant qui marque sa joie exactement avec les mêmes termes dans « La Belle au bois dormant ». Aurore vint en sautant et en riant se jeter à son cou. Non, quand on veut marquer sa joie, on la note, on la marque à peu près de la même manière. Donc, voilà, là on a un élément très très clair sur le fait que Pousset, lui, est content de revenir chez lui, mais ça n'est plus tout à fait chez lui. Il est content de revoir sa famille, mais ce n'est pas tout à fait équivalent et réciproque. Et sur leur avenir à partir de maintenant, chez les Grimm, vous vous souvenez, on a dit, tous leurs soucis avaient enfin pris fin, puisque maintenant, ils ont de l'argent. Et ils purent vivre avec bonheur ensemble. Le conte se termine par le mot « ensemble ». Ça y est, si vous voulez, ça c'est... Il y avait un début, ça s'est reconstitué, il y a eu des troubles, paf, ça y est, la communauté s'est refaite, terminée, éternellement, expurgée de la mer. Ensemble, moins la mer, qui permettait pas vraiment ce vivre ensemble. Voilà, et c'est reparti, comme ça. Bon. C'est pas la perspective chez Perrault. D'abord, il a un métier à l'extérieur, dorénavant, hein, ce métier de courrier, et les derniers mots ici, c'est pas le bonheur ensemble, à la maison, c'est Il mit toute sa famille à son aise. D'ailleurs, c'est maintenant lui qui devient le pourvoyeur de la famille. Situation assez étonnante. Et fit parfaitement bien sa cour en même temps. Ça y est, maintenant, il continue à vivre dehors. Et je veux dire, il est lancé. Et avoir sa propre existence. Alors, comme vous le voyez, il n'a pas rompu avec sa famille en aucune manière. Il est, on va dire, bien content de les revoir. Mais en même temps, il est ailleurs, et ça y est, il mène sa vie ailleurs. Alors, en guise de conclusion, vous voyez cette histoire qu'on aurait tendance à croire comme celle d'un enfant qui sauve sa famille grâce à ses ruses et réintègre le giron familial, comme si rien ne s'était passé. Ce qui se passe un petit peu dans la version d'Egrim, même si le giron a été modifié puisqu'elle était expurgée de l'entité mauvaise. Ben non. Dans le conte de Perrault, nous avons affaire à un personnage qui ne proteste pas en découvrant le projet d'abandon, ne se plaint pas à son retour, parce qu'en vérité, il perçoit assez bien la situation et il commence, sa réaction va être de se détacher peu à peu. Il va en tirer les conséquences, il accepte les limites de ses parents, il ne va pas rentrer dans des relations conflictuelles, il s'émancipe, comme on dit. Désormais, il est écouté. Hein, vous avez vu, il leur dit « suivez-moi » et c'est tout. Il informe vaguement « vous inquiétez pas pour moi, je m'en vais ». Et on retrouve d'ailleurs à ce stade, et je conclurai là-dessus, une leçon assez courante en vérité dans les contes et notamment dans la tradition orale. Nicole Belmont nous le rappelle régulièrement, l'idée de se séparer de sa famille comme étant l'un des éléments de l'initiation. Mais on peut aussi noter que c'est dans la fulgurance de la Bible hébraïque, ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous voyez, ce livre, si on prend par exemple dans l'édition de la Pléiade, qui doit faire 2000 pages, à la page 2, vous avez « Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère ?» Voilà, c'est tout de même assez fulgurant qu'à la page 2, tout de suite, on évoque que le destin va être, d'une manière ou d'une autre, de se séparer. Je vous remercie.